Vous écoutez Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire. Bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes... Bonjour. Oui, vous êtes bien avec Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire sur Radio B 90 FM, la radio des bonnes ondes. Je suis heureux de vous retrouver en ce mois de novembre. Je vais commencer par quatre grandes confrontations historiques, grandes et remarquables, mais il y en a une cinquième aussi. Et puis après, quelques coups de cœur, voilà. Je pense qu'on aura le temps. Alors, je commencerai par... un livre sur Hubert Reeve qui dit que tout n'est pas foutu, et c'est de Laurence Honorat. Voilà. Après, j'enchaînerai avec un livre sur Wilhelm von Ketteler. Peut-être un nom qui ne vous dit rien, mais c'est très important parce que il a travaillé sur l'Église devant l'État, et c'est de Jérôme Fehrenbach. Et puis j'aborde le grand Gengis Khan et l'Empire mongol. Ça, c'est de Jacques Paviot, qui est un enfant du pays, mais qui est parti à Paris et qui est devenu professeur. Voilà. Et puis un quatrième livre que j'avais prévu de vous présenter, Les princes de la nuit. Qui sont ces princes de la nuit? Eh bien, vous le verrez dans les explications que je vous donnerai, avec la police du roi Soleil. Donc on est à l'époque du roi Soleil, et c'est de Jacques Forjas. Et puis, comme j'ai remarqué un très grand livre du grand Ken Follett, avec son nouveau roman historique, Le Cercle des Jours, l'histoire qu'il raconte commence autour de 2500 ans avant notre ère, à Stonehenge, en Angleterre. J'espère que vous avez déjà entendu parler de ce lieu mystérieux, fantastique, Stonehenge. Et puis, des coups de cœur comme Gioconda de Nikos, qui est un grec, Nikos Kokantzis, aux éditions de l'Aube. Je suis né du diable, ça c'est de Jean-Christophe Granger, paru chez Albin Michel. Ce n'est pas un roman à proprement dit, mais il revient sur son parcours. Et c'est vraiment... il est né du diable, alors c'est tout dire que ça va vous fasciner. Voilà. Et puis, bon, il y a le 11e livre du regretté Charles Julliez qui s'appelle « Mes meilleures années », paru chez Paul, son éditeur. Vous savez qu'il est mort le 26 juillet 2024 à Lyon. Mais c'est des fragments, mais qui sont très intéressants. Mais je pense que je vous en parlerai plus, parce qu'il y a des poèmes de lui qui sont, voilà, que j'en parlerai plus en décembre. Voilà. Donc je commence par un livre fantastique. Hubert Reeve, le grand Hubert Reeve. Tout n'est pas foutu. De Laurence Honorat, aux éditions Télémaque. C'est vraiment une superbe édition, car on voit en couverture Hubert Reeve avec sa barbe blanche, son sourire. C'est vraiment un humaniste et un scientifique hors norme. Alors, et puis il y a d'autres photos dans ce livre, et puis des repères historiques aussi sur sa vie, voilà. Hubert Reeve donc est un humaniste par excellence et passionné autant par le ciel et les galaxies que par la nature, la musique ou la poésie. Et c'est peut-être cet aspect-là que l'on découvre davantage avec ce livre et que l'on retient de lui. 2 ans après sa disparition, Laurence Honora nous offre un émouvant portrait intime et dévoile les dernières réflexions qu'Hubert-Reeve lui a confiées. Oui, oui, il y a une rencontre vraiment active, personnelle, sur l'état de notre planète et les perspectives insoupçonnées qu'il pressent pour un monde meilleur. Voilà. Et elle les illustre par les témoignages inédits, oui, on peut le dire, je vous en donnerai quelques exemples de ce témoignage inédit, de sa famille, ses femmes, ses enfants, de ses proches et de scientifiques, alors oui, des scientifiques de premier plan, tous profondément influencés par le célèbre astrophysicien. Ce livre est de 348 pages, donc on pourrait dire, mais tout y est dit, voilà pourquoi, et il coûte 23 €. Et c'est l'héritage plein d'espoir et d'énergie d'un scientifique, d'un être humain hors du commun. Cet ouvrage contient, comme je l'ai dit, des repères chronologiques très détaillés depuis sa naissance à Montréal, au Canada, au Québec, le 13 juillet 1932 à 8h30, jusqu'à sa mort le 13 octobre 2023 à Paris, dans le 13e arrondissement, à l'âge de 91 ans. Voilà. Et que dans ces repères chronologiques, on retrouve que c'est en 1981 qu'il publie Patience dans l'azur. Vous l'avez sans doute lu si vous êtes un peu plus ancien, parce qu'on en avait beaucoup parlé de cette Patience dans l'azur, qui connaît un grand succès et vulgarise l'astrophysique auprès du grand public. Voilà. Ce livre se termine par un chapitre venant de lui qui dit que l'avenir est toujours surprenant. C'est vrai, il parle de la limite, quand même, des limites. Mais il y a une espérance parce que l'avenir est toujours surprenant. Et lorsque un paysage, une idée, une rencontre, une découverte entre en vibration avec nous, ce n'est pas la maîtrise qui crée cette magie, c'est l'ouverture et l'écoute. Voilà, il faut rester en ouverture et à l'écoute de ce qui peut advenir. Et il y aura des choses qui vont se passer. Alors j'avais prévu de vous lire quelques témoignages de ces enfants. Et comme ça, qui est-il ? Voilà, ce Hubert-Reeve. Alors, un de ses fils, Nicolas Reeve, dit Hubert s'émerveiller comme savent s'émerveiller les enfants de tous les aspects du monde. Les rencontres et les gens, les fleurs et les arbres, la musique, les étoiles et le ciel. Il voulait tout savoir et tout connaître. Hubert nous a appris que le désir de connaissance prend racine dans la beauté du monde. On ne pourrait pas mieux dire. Il n'était jamais blasé, jamais lassé. C'est absolument extraordinaire. On avait toujours envie d'être avec lui pour échanger, pour se faire expliquer des choses, nous dit un autre de ses fils, François Reeve. Lorsque j'ai rencontré Hubert, il est exactement le portrait que je me faisais de l'astrophysicien et surtout celui de Dieu dans les dessins qu'on m'avait offerts quand j'étais petite. Il y avait le ciel et la terre, vus par Jean Eiffel, un caricaturiste que nous avons connu, bien sûr. Dieu avait exactement la petite barbe blanche d'Hubert. Et sur la couverture de ce livre, on le voit avec sa petite barbe blanche. Donc c'est peut-être Dieu qui est représenté avec Hubert et sa manière d'être très décontractée. Ça, c'est Anna Alter qui nous dit. Sénèque, il a repris cette pensée de Sénèque. Nous sommes une partie du tout, un fragment du grand corps de l'univers. Tout le monde remarquait sa gentillesse, son écoute. Il demandait beaucoup d'informations sur ce que les gens faisaient dans la vie. Je peux dire que c'est un homme très facile de contact, nous dit Michel Santongin, Jean, qui était sa première épouse, parce qu'il en a eu deux. Les yeux pétillants d'Hubert, c'est un peu mon thermomètre. Il pouvait devenir terne, on aurait dit des yeux d'épagneuls, tout triste, ça me ravageait le cœur. J'avais été capable de faire n'importe quoi pour que de nouveau ses yeux pétillent, nous dit Camille Scoffier-Rives, sa seconde épouse. Je suis toujours ahuri de voir le nombre de personnes qui se targuent de connaître Hubert, d'avoir passé du temps avec lui. Il était magnétique, il pouvait réunir des personnes de tout domaine autour de lui. Il savait les capter, les intéresser, nous redit François Rives. La vraie question, c'est qui Hubert connaissait ? Point d'interrogation. Parce que là, c'est une preuve, dit Jacques Véry, qui est un enseignant. La pratique de l'astronomie un peu comme un botaniste. Il pratiquait l'astronomie un peu comme un botaniste. Il avait ses petites fleurs dans le ciel, nous dit Anna Alter. Il savait tout sur les oiseaux et reconnaissait tous les chants. Ça m'a impressionné qu'il semble les connaître aussi bien et qu'il en garde aussi facilement que des étoiles, nous dit Dorian Rives Ribière, chef d'entreprise et petit-fils d'Hubert. Voilà. Ma vitre est un jardin de givre, dit Émile Nelly John. Je vais rester sur ces témoignages sur Hubert Rives dans ce livre de Laurence Honorat qu'elle a pu recueillir après l'avoir rencontré. Hubert Rives, tout n'est pas foutu, son héritage humaniste et scientifique qui nous est raconté superbement dans ce grand livre de Laurence Honorat, Hubert Rives, tout n'est pas foutu, son héritage humaniste et scientifique aux éditions Télémaque. Et je passe à un autre, très différent, mais un autre grand livre aussi, sur Wilhelm von Ketteler, l'Église devant l'État, qui vient de paraître au Cerf. Le premier comme celui-là, c'est une diffusion, je le signale, parce que je les remercie infiniment. Gilles Paris de Paris, voilà, grâce à eux, j'ai reçu les quatre livres dont je vous parlais maintenant. Alors, Wilhelm, Jérôme, passé par Jérôme Fehrenbach, qui est un historien germaniste, essayiste. Il a été par ailleurs inspecteur général des finances. On lui doit plusieurs monographies remarquées. Ce Wilhelm von Ketteler, un nom à retenir, il a été inventeur de la démocratie chrétienne, précurseur de la doctrine sociale de l'Église. Voilà, on en parle de temps en temps, mais là, ici, il était précurseur de la doctrine sociale de l'Église. Pionnier de l'attestation charitable et civile. Wilhelm von Kitteler fut un visionnaire. Voici la première, oui, je dis bien la première biographie de l'homme pour qui le défi de la modernité ne pouvait aller sans la liberté de la foi. Voilà. Tout est presque dit dans cette phrase terrible. 416 pages, donc c'est plus important que l'autre, mais coûte 35 euros parce que c'est vraiment exhaustif. Alors ce Wilhelm von Ketteler est une figure phare du 19e siècle. On est avec lui au 19e siècle allemand, homme de pensée et d'action. Ketteler reformule, après le grand ébranlement européen, au XIXe siècle, c'est l'heure de la, comment dire, le royaume industriel qui va prendre forme à cette époque-là. Alors, grand ébranlement européen, l'engagement évangélique au sein de la cité, tout au long de sa carrière administrative, puis épiscopale, il sera nommé évêque de Mayence sous le nom de Wilhelm Emmanuel. Il s'interroge de manière critique sur l'essor de l'État. Voilà, l'essor de l'État. La représentation divinisée de la souveraineté politique. Voilà. C'est un grand danger, et on le voit bien aujourd'hui. Et la puissance de la sécularisation de la bureaucratie. Pour ce théologien attentif aux signes des temps, le christianisme ne peut rechercher le pouvoir, mais doit se constituer en contre-pouvoir. Voilà. On ne doit pas, avoir, mais en contre-pouvoir. Si l'Église n'est pas de ce monde, elle ne saurait être indifférente au devenir du monde. Si son magistère est spirituel, oui, le magistère de l'Église, du christianisme est spirituel, elle ne saurait omettre l'espace public, car son rôle de contrepoids éthique n'en est dès lors que plus crucial. Il est en fait indispensable à ce que le politique, n'enfreigne pas les droits fondamentaux et la dignité essentielle de chaque personne humaine. Je le redis, n'enfreigne pas les droits fondamentaux et la dignité essentielle de chaque personne humaine. Alors, libéral, il était libéral et conservateur, cet immortel initiateur du catholicisme social, je le répète, du catholicisme social, s'occupant des pauvres, en particulier les ouvriers, esclaves de leur travail, mais aussi des femmes et des enfants qui normalement devaient aller à l'école et ne pas travailler, mais il y a pas mal d'enfants qui travaillent déjà aussi dans les entreprises de l'époque. Et puis des salaires, voilà. Il fallait travailler presque tous les jours, il n'y avait pas de dimanche, vraiment. Il a ouvert une troisième voie entre révolution et réaction. Une troisième voie. D'où son étonnante actualité qui illustre et que montre cette somme biographique, c'est une somme biographique inégalée que voici. Il sera opposé au prince Bismarck, voilà le fameux Bismarck, on en parle beaucoup. Ça a été son ennemi à ce von Ketteler. Et puis de l'époque de la Pologne, c'est la Pologne qui est la grande, qui dirige l'Allemagne. À cette époque-là, il repose sous un gisant de marbre comme un prince de l'Église, du Moyen-Âge. C'est pourtant lui qui a fait entrer l'Église catholique d'Allemagne dans la modernité et qui l'a dotée d'une force renouvelée pour plusieurs générations. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Lisez ce livre-là, Wilhelm von Ketteler, L'Église devant l'État, de Jérôme Fehrenbach, qui vient de paraître au Cerf. Et j'aborde un autre grand livre. Celui sur Genghis Khan et l'Empire mongol du XIIe et XVe siècle. Voilà, trois siècles. C'est de Jacques Paviot, qui est un enfant du pays, qui est devenu professeur émérite d'histoire médiévale à l'université Paris-Est-Créteil. Jacques Paviot a publié de nombreux ouvrages sur le Moyen-Âge et plusieurs études sur les contacts entre Européens et Mongols. C'est vraiment quelqu'un de performant, voilà, je dirais. Quel fut le destin de Genghis Khan ? Comment les Mongols ont-ils subjugué le monde ? Voici, à travers les guerres et les conquêtes, l'histoire totale, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a ça, mais une fois qu'ils ont dominé, ils ont apporté d'autres choses. Voici, à travers les guerres et les conquêtes, l'histoire totale du plus vaste empire jamais vu, et le récit captivant de la plus grande des épopées. Un livre de 319 pages, mais tout y est dit, donc il n'y a rien. Il y a même, au départ, une présentation de cette Mongolie des nomades, mais aussi la présentation de cette Mongolie. Il coûte 24,90 euros. Et rarement un individu qui s'appelle au départ Temujin aura autant bouleversé son époque. Retraçant l'ascension fulgurante de celui qui est devenu Genghis Khan, un nom qui a retenti, qui, triomphant des luttes de pouvoir et s'imposant à tout un peuple, est parvenu à soumettre l'Asie, où il est allé jusqu'en Chine, donc à soumettre l'Asie. Jacques Paviot explore la vie et l'héritage, parce que c'est vraiment un héritage d'un stratège visionnaire. Ça, c'est peut-être ce qui a été le moins répété, le moins dit, l'héritage d'un stratège visionnaire. Depuis les premières campagnes du fondateur de l'Empire jusqu'au dernier feu de la Horde d'Or, ce livre raconte plus de trois siècles d'invasion et de siège, de massacres et de pillages. Mais il n'y a pas que ça, vous verrez, dans ce livre. Trois siècles au cours desquels les grands camps, ses successeurs, parce qu'il aura des successeurs efficaces, que furent Ogodaï et Mang, Ulugu et Kubilai, ont étendu leur domination de la Terre Sainte à la Corée, oui, jusqu'à la Corée, et de l'Inde à la Pologne. Vous voyez comme c'est vaste, et tout y est dit. Exhumant, oui, ça c'est Jacques Paviot, exhumant les rapports des chroniqueurs de l'époque, des missionnaires, des marchands, Jacques Paviot dévoile aussi la réalité d'un territoire structuré au commerce florissant dans lequel les hommes, les idées, les croyances, oui, on aura plusieurs aspects sur ces croyances, chrétiens, musulmans, juifs, et puis Confucius, la Chine. Donc on peut circuler comme jamais auparavant. Il nous offre une plongée fascinante dans l'histoire d'un empire hors normes dont les armées, parties de la steppe, oui, c'était des nomades, parties de la steppe, auront déferlé jusqu'aux confins du monde. C'est tout à fait magistral que ce livre, Genghis Khan et l'Empire mongol, 12e et 15e siècle, de Jacques Pavio, paru au Cerf. Et pourtant, l'image que je retiens, c'est celle de Genghis Khan avant une bataille cruciale contre son grand ennemi. Il va monter sur une colline pendant 3 jours et 3 nuits et se mettre en prière, s'agenouillant, penché sur la terre, ôtant son chapeau, priant le Dieu éternel, car le Dieu éternel, c'est celui qui rend facile ce qui était difficile et proche ce qui était lointain, et que, il le sait bien, Dieu, mais aussi Genghis Khan, voilà pourquoi il demande à l'aide de Dieu avant cette bataille qu'il va remporter. Donc, grande confiance, mais aussi une grande moralité que vous découvrirez dans ce livre, parce que on ne doit pas tuer pour rien, quoi. Je veux dire, hors des batailles, la vie doit être normale, doit être paisible, voilà, et on ne doit pas voler la femme de son voisin, on ne doit pas, voilà. Donc vous découvrirez cette moralité éditée par Genghis Khan à son peuple, voilà. Donc je termine là-dessus pour ce livre de Jacques Pavio, Genghis Khan et l'Empire mongol, 12e et 15e siècle. Tous ces siècles sont rassemblés dans ce livre paru au Cerf, par Jacques Pavio, voilà. Alors après, j'aborde un livre différent, pas aussi important, parce que c'est une fiction, voilà. Alors que là, c'était pas des fictions. Oui, « Les princes de la nuit » de Jacques Forjas, qui vient de paraître chez Albin Michel, ça aussi c'est une diffusion Gilles Paris, que je remercie. J'avais déjà lu le premier précédent livre de lui, de Jacques Forjas, « Les fantômes de Versailles », je vous en avais parlé d'ailleurs dans cette radio, et à d'autres moments. Ici, « Les princes de la nuit », vous allez voir, c'est différent. Mais le cadre est historique. Si c'est une fiction, le cadre est bien historique. Nous sommes en septembre 1677. Des sorcières violées, retrouvées crucifiées la tête en bas, des médecins étouffés parce qu'on ne pouvait pas les tuer avec une arme, on les a étouffés, pendus eux aussi la tête en bas. C'est sur une série d'abominables crimes que s'ouvre ce livre, ce roman, « Les princes de la nuit ». Chargé de l'enquête par le commissaire Delamarre, bras droit du lieutenant général Larigny, voilà un nom connu, célèbre, Larigny, qui a inventé la police à l'époque de Louis XIV, les inspecteurs Laruche et Torsac, qui sont vraiment très bien, qu'il faut découvrir, vous verrez, Laruche et Torsac pénètrent l'univers secret et inquiétant des devineresses et autres guérisseuses de cette époque. Qui se cache derrière ces assassinats? Eh bien, c'est la grande question. C'est l'intrigue haletante et mystérieuse qui va vous entraîner dans une quête. Après le succès du premier volet de la série dont Les Fantômes de Versailles, dont j'ai parlé, Fantômes de Versailles, que l'on peut lire séparément, ce sont deux histoires différentes, même si l'on retrouve les inspecteurs cités, Laruche et Torsac, le commissaire et l'araignée. Jacques Forjas poursuit une fresque policière saisissante de réalisme et nous plonge au cœur de la société d'Ancien Régime, cette société d'Ancien Régime, qui nous semble vraiment très proche avec Jacques Forjas, et de la redoutable police secrète, oui, de Colbert, avec Les Fantômes de Versailles, on l'avait vu en action, cette police secrète de Colbert, et bien ici, on la retrouve aussi. Sous sa plume, celle de Jacques Forjas, Paris devient un théâtre d'ombre et de lumière, où la magie côtoie la science, parce que à cette époque, des médecins avaient découvert la circulation sanguine et la quête de la vérité, parce que ces médecins se posaient la question, est-ce que le corps a une âme? Voilà, vous verrez tout ça dans ce livre. Et les pires pulsions criminelles qui se puissent concevoir, donc il y aura beaucoup de pulsions criminelles. Il se tourne aussi, voilà pourquoi, et c'était vraiment un thème différent et un thème très important, il se tourne aussi vers ces enfants orphelins qui traînent dans les rues boueuses de Paris, affamés, et qui sont un peu récupérés par des gens, voilà, vous verrez pourquoi on veut récupérer certains de ces enfants. Il y a un prêtre aussi, le père Lacagne, qui se prend pour un nouveau Savonarole. C'est tout dire. C'est donc à vous de lire ce grand roman de Jacques Forjas, qui vient, Les Princes de la Nuit, qui vient de paraître chez Albin Michel. Et on fait une pause musicale. J'ai choisi une belle musique, celle d'Oblivion. Le titre, c'est Oblivion. C'est du grand Astor Piazzolla. Et c'est interprété par Camille Berthollet. Vous savez, Camille Berthollet, qui avait remporté un grand prix et qui a publié, qui a fait un livre, un disque, un CD, voilà. Et elle est accompagnée par le grand Gauthier Capuçon. Voilà, et on écoute cette belle musique. Thank you. Voilà, je pense que vous avez été saisi autant que moi par ces deux instruments de musique, le violon de Camille Berthollet et puis le violoncelle du grand Gauthier Capuçon. Voilà, étroitement associés, emmêlés dans cette belle musique Oblivion d'Astor Piazzolla. Alors j'aborde un autre grand roman, Le Cercle des Jours de Ken Follett, édité par Robert Laffont. Ce grand écrivain nous envoûte totalement par son écriture. Oui, tout le monde est saisi par son écriture qui nous plonge à Stonehenge, ou Henge, 2500 ans avant notre ère. Et on assiste à la naissance d'une légende qu'il met en scène avec des personnages hauts en couleur. Et puis il y a un tyran, car il y a des luttes et du suspense dans ce grand livre. Il y a le premier personnage, c'est Seft. Seft est tailleur de silex. C'est un expert en la matière. Et sous la chaleur estivale, il traverse un lieu dit la Grande Plaine pour participer aux célébrations du solstice d'été. C'est une grande époque, une grande date que ce solstice d'été, qui marque une nouvelle année. Il espère y vendre le fruit de son travail. Et surtout de revoir Nine, dont il est épris et qui, par la suite, deviendra sa femme et la mère de leurs enfants, dont un fils qui sera très proche, qui va presque lui succéder. Voilà. Issu d'une famille puissante d'éleveurs, la jeune fille, Nine, pourrait lui offrir une nouvelle vie, loin de la violence de son clan. Car on va découvrir que dans son clan, dans son enfance, il a souffert, ce Seft a souffert de violence de son père et de deux autres frères qui formaient un clan. Et c'est bien ce qui adviendra, il ne veut plus du tout de violence. Mais c'est Joia, la sœur de Nine, qui va changer le destin de tous, visionnaire et déterminée, devenant une grande prêtresse. Oui, les prêtresses de l'époque vont connaître une grande importance, d'une grande connaissance des jours et des heures des jours. C'est une érudite. Et elle rêve de bâtir un immense cercle de pierre pour rassembler les communautés ennemies de la plaine. Une sagesse, voilà. À ses côtés, Seft va s'engager dans un projet fou, ériger un monument sacré, malgré la sécheresse, les mauvaises récoltes et les conflits qui vont s'intensifier au cours de cette aventure grandiose. Oui, parce que il y avait bien un cercle, mais il était en bois. Et alors, avec les années ou les aléas ou les incendies, parfois, eh bien, ce bois pouvait brûler. Donc, l'idée, c'est de faire un cercle de pierre qui résiste au temps. Et c'est bien ce qui va se réaliser. Alors, donc, il y a différents clans qui sont opposés les uns aux autres, qui jusque-là vivaient plutôt en harmonie. Mais le chef des agriculteurs, Trône, qui s'appelle Trône, va usurper des terres laissées aux éleveurs. Donc, et puis, il considère que c'est bien pour lui et pour eux que toute personne n'a discuté cette idée qui va semer quand même la guerre. Il veut agrandir les terres agricoles appauvries par la sécheresse. Il y a une vallée de pierre, de pierre immense, située en hauteur de cette vallée, où justement Sef taille des mégalithes avec d'autres personnes qui l'accompagnent. Et il imagine, une fois descendu, ces pierres très grandes, hautes et qui pèsent des tonnes, ces pierres, une fois descendues, serviront au cercle de pierres immenses. Mais il y aura une guerre entre les agriculteurs, les éleveurs, les habitants des forêts aussi, qui vivent de chasse et de noisettes. Il y a les aînés, les prêtresses, donc tout ce monde-là est réparti dans ce grand roman. Donc, je l'ai dit, le chef des agriculteurs, Trône, est un tyran qui se prend pour le grand chef, avec les agriculteurs, ses serviteurs. Donc, ils feront beaucoup pour empêcher cette construction. Mais, bien entendu, ils n'y arriveront pas. Oui, ce grand roman de Ken Follett est un acte d'une cruauté insoutenable qui va déclencher la guerre. Le rêve de paix et d'unité menace de s'effondrer, mais Ken Follett, le maître incontesté du roman épique, explore les origines de l'un des plus grands mystères de l'humanité, les pierres géantes circulaires de Tonehenge. 600 pages, oui, c'est un grand roman, mais on le dévore, qui coûte 25,90 euros. C'est magistral et envoûtant. Alors j'ai dit que je parlerai aussi de coups de cœur, voilà. Et dans ces coups de cœur, eh bien, il y a le premier, c'est Gioconda, c'est le titre de ce roman, une très belle édition de Nikos Kokantzis, aux éditions de l'Aube, une très belle édition illustrée. Ce livre est une histoire vraie que nous raconte l'auteur Nikos Kokantzis. C'est son histoire incroyable illustrée par Anne de Fréville. Un récit traduit du grec par Michel Volkovitch. C'est lui, le narrateur, ce très jeune adolescent. Michel Volkovitch non seulement fait une très belle traduction de ce texte plutôt poétique, mais il raconte, Michel Volkovitch, le contexte, voilà, je cherchais le mot, le contexte de cette histoire. Parce que ça se passe à Thessalonique, pendant l'occupation allemande. Et ce jeune narrateur, Nikos, aima Gioconda, une jeune fille de l'époque, et en fut aimé d'un amour total. C'est ce que l'on découvre donc dans cette histoire d'amour. Gioconda était juive, comme de nombreux Saloniciens. La ville fut pendant des siècles, jusqu'à son rattachement à la Grèce en 1913, peuplée en majorité par des Juifs. Et ceux-ci, en 1940, se comptaient encore par dizaines de milliers, donc importants. Ils furent tous déportés en 1943, presque tous, dont Gioconda, sont morts à Auschwitz. Donc c'est vraiment une histoire terrible. 1000 à peine sont revenus de Auschwitz. Et nombre de Grecs ces temps-ci, actuellement, voulant croire à une Thessalonique éternellement et purement hellène, semblent les avoir oubliés. La ville elle-même a en grande partie disparu. La Thessalonique d'avant-guerre est plus lointaine désormais que l'Inde ou la Chine. Et pendant 30 ans, Nikos n'a pas voulu ou pas pu parler de Gioconda, de ce qu'il avait vécu avec elle. Puis, en 1975, à 45 ans, se disant que s'il mourait, elle mourrait avec lui une deuxième fois. Il a enfin écrit ce mémorial. Son premier livre est le seul qu'il ait écrit, roman sur roman. Le plus étrange, c'est que cette histoire est ancrée dans la réalité la plus précise, vous le verrez bien, et ne cesse de dériver insensiblement vers les territoires du rêve. Voilà pourquoi ce roman est si beau. C'est le livre que je préfère au monde, nous dit un critique. Nikos et Gioconda, qui découvrent l'amour total, se retrouvent au cœur de la guerre comme deux petits poussés, bien dit, la nuit dans la forêt pleine d'ogres, avec l'amour pour cabane refuge, voilà, c'est pas dans une cabane au départ, mais une cabane refuge, avec une bonne fée quand même, la grand-mère de Gioconda qui avait remarqué la chose et qui laissait faire, bien sûr. Amour des âmes, amour des corps, avec des ébats amoureux détaillés, avec autant de précision, mais en même temps de naturel, d'innocence, de ferveur. Il se découvre totalement. Oui, c'est à lire absolument ce Gioconda de Nikos Kokantzis, qui vient de paraître aux éditions de l'Aube, une superbe édition illustrée, cartonnée illustrée. Et les dernières paroles de Gioconda, c'est peut-être cette interrogation. Nikos, où sont nos rêves? Que vont-ils devenir? Eh bien, je peux vous dire que dans ce livre se retrouvent leurs rêves, et qu'ils deviennent bien. Voilà. Alors je vais vous parler aussi d'un autre livre, coup de cœur, terrible. « Je suis né du diable » de Jean-Christophe Granger. Vous connaissez Jean-Christophe Granger, qui a fait une vingtaine de romans qui vous ont interpellé, marqué peut-être même. Ça vient de paraître, « Je suis né du diable ». C'était provoquant, bien sûr, on voit le jeune garçon, voilà, avec un bonnet, et puis il y a de la neige, tout ça, donc « Je suis né du diable ». C'est lui qui met en couverture. Une histoire racontée dans ce livre est plus d'autant plus terrifiante que tout y est vrai, et que c'est la mienne nous dit moi, Jean-Christophe Granger. C'est aussi un hommage silencieux à deux femmes. André, la première qui parle, c'est la grand-mère, et puis Michel, la mère. Deux femmes exceptionnelles qui vont tout faire pour lui permettre d'arriver là où il est arrivé. Je m'en suis sorti, dit-il, à la fin de ce récit haut en couleur, à devenir cet écrivain reconnu et aimé. Mais voici son histoire personnelle dans ce livre. Je suis né du diable. D'où viennent les idées pareilles que l'on a pu voir dans ses romans? C'est la question que souvent on lui pose. Que l'on retrouve dans ses romans, tels que le vol des cigognes, le premier, les rivières pourpres, le concile de Pierre, l'empire des loups et tous les autres, d'où viennent l'inspiration? En réalité, il n'en sait rien. Mais la question revient si souvent qu'elle l'a forcé à réfléchir, d'où ce témoignage sur sa vie. Voilà, ce livre, c'est ce témoignage, son témoignage sur sa vie. Il s'est alors tourné vers l'enfance. Si la sienne a été parfaitement heureuse, elle n'a pas été normale. « J'ai grandi, dit-il, sans le savoir, mais en le pressentant, à l'ombre d'une menace, à l'ombre d'une menace. » Et elle est importante, cette menace. Et il fait parler André, sa grand-mère, qui a su le protéger de cette menace dès sa naissance. Elle va le récupérer. Et Michel, sa mère, qui a rencontré Jean-Claude Granger, un produit de Saint-Mandé, fils d'un riche industriel, il est étudiant en médecine, mais c'est une image qu'il veut donner de lui. Il est le plus souvent dans un lieu de prédilection qui est le café de la terrasse, où il boit pas mal avec des amis, ils se rencontrent là, ils vont s'aimer et se marier car elle est enceinte. Pourtant, il boit beaucoup, il boit trop, et veut forcer les autres à le faire. Ainsi commence, donc pour Marie, la honte et l'enfer. Alors comment se sortir d'une histoire d'épouvante que personne n'a jamais voulu lui raconter? Mais d'où viennent des idées pareilles? Ce livre fort riche d'expressions littéraires est la réponse que vous devez lire. C'est bouleversant et même passionnant. Surtout lorsqu'il deviendra, avec Pierre Perrin, un grand reporter. Ils vont collaborer ensemble pour une série de reportages sur les derniers nomades du monde. Tout comme Jacques Paviot, on trouve les nomades du monde. Tout d'abord en Thaïlande, avec les Moken, qui étaient des pêcheurs, voilà. Et donc, avec la rencontre de ces pêcheurs, de ces Moken, ce sera une révélation, car lui, Jean-Christophe Granger, qui était le sédentaire, l'intellectuel, le fragile, devient un homme d'action, qui ne vit que pour les voyages, les sensations, les épreuves. Donc, je ne vous parle pas de toutes ces rencontres avec ces nomades du monde, venant à d'autres que les Moken, mais si vous avez lu ces romans, vous retrouverez peut-être une inspiration dans ces voyages, dans ces rencontres. Tout aussi édifiante, voilà, je vous laisse lire la suite, tout aussi édifiante et singulière. Il fera aussi une très grave dépression qui demandera une psychanalyse de plusieurs, parce que malgré son succès littéraire, la menace qui l'a frappé sans qu'ils s'en rendent vraiment compte, elle est bien là et il faut qu'il la sorte de lui pour devenir pleinement lui-même. Alors j'avais envie de vous lire un dernier passage de ce roman. C'est un roman, mais un témoignage de sa vie. Voilà, parce que donc, il parle de sa dépression, mais bon, vous le découvrirez vous-même. Ce que je voulais vous dire, c'est parmi les 1000 douleurs encaissées et guéries, non, c'était pas ça que je voulais lire. Ah si, c'est, voilà, c'est bien ça. Parmi les 1000 douleurs encaissées et guéries sur le divan, une en particulier a crevé ma conscience. Je n'ai pas connu mon père. Je l'ai nié, oublié, effacé. Soit. Mais il y a une chose que je n'ai pu ignorer. C'est le rejet que j'ai subi de la part des grangers. J'ai été non pas répudié, non pas, disons, désavoué par le clan de Saint-Mont, mais désavoué par le clan de Saint-Mandé. Par exemple, j'ai toujours été le seul dans ma famille à porter le nom de Granger. Où étaient les autres? Où étaient les miens? Mon nom a été comme une lettre écarlate, la marque du rejet, de l'anathème. Aujourd'hui, quand on reconnaît chez un de mes enfants un trait de mon caractère, on s'exclame en riant « Tu es bien un Granger ». Le groupe est là, les racines sont visibles. Nous partageons un ADN, une histoire, un sang. Moi, j'ai grandi dans le désert. Le hasard fait qu'au moment de la rédaction de ce récit, je travaille le bac français avec ma fille Isée. Je m'y suis déjà collé avec Louis, il y a une quinzaine d'années, son premier fils, puis avec Mathilde 5 ans plus tard. Chaque fois, au hasard de nos révisions, je tombe sur Voltaire. Et parmi les événements qui ont marqué son existence, il y a son altercation avec le chevalier de Rohan, on s'en souvient, et son exil en Angleterre. L'histoire est célèbre. Alors que Chevalier se moquait de son nom si court, si modeste, Voltaire lui aurait répondu « Je commence le mien, vous finissez le vôtre ». La phrase résonne en moi. Plus loin, il dit « Or, soudain, le succès arrive par l'enfant oublié, lui, Jean-Christophe Granger. Tout à coup, le nom de Granger se mit à briller, là où on ne l'attendait pas, du côté des maréchaux, des rocas, de cette famille pauvre et bancale. Que croyez-vous qu'il se soit passé? Mon grand-père a voulu me rencontrer. J'ai refusé. Quelques années plus tard, à 80 ans passés, il réitère sa demande. Nouveau rejet. L'article de la mort, dernière tentative, dernier refus, cruel de ma part, point d'interrogation, non, logique, aucune raison à mes yeux de croiser un vieillard avec qui je n'ai rien partagé. Je ne sais pas ce qui a pris au vieux Marcel, c'est le nom, le prénom de ce grand-père, Marcel, mais sur son lit de mort, il a décidé de souscrire une assurance vie à mon nom. Oh, pas le pactole, mais tout de même 20 000 euros. C'est l'intention qui compte. Mais pourquoi me verser cet argent alors qu'il ne l'a pas fait pour ses enfants ni leur descendance? La prime au mérite, sans doute, lui qui avait tant espéré que ses fils réussissent, c'est peut-être au crépuscule de sa vie, réfugié dans cette consolation, un lointain petit-fils avait enfin upgradé le nom d'étranger. J'ai d'abord refusé, puis je me suis ravisé. J'ai encaissé les 20 000 euros et je les ai directement versés sur le compte de ma mère en souvenir de la deux chevaux vert pomme qu'il n'avait pas voulu payer. Michel, sa mère, donc, a utilisé cette somme pour étendre ses terres autour de sa petite longère près de Nogent-le-Rotrou, dans le Perche. Aujourd'hui, quand je lui rends visite à la campagne, c'est rare, car je suis allergique à la verdure, elle aime me montrer les 4 arbres qu'elle a plantés dans son jardin à la naissance de chacun de mes enfants. Un marronnier pour Louis, un autre pour Mathilde, une roseraie pour Isée, puis encore un marronnier pour Caïto. Ils grandissent, ils flamboient, ces arbres, c'est vrai, comme mes enfants, tout en admirant leurs cimes lumineuses. Je pense à la terre qui a donné naissance à cette ferveur, une terre qui, d'une certaine façon, a été payée par le grand-père de Saint-Mandé. Où que tu sois, Marcel, je te remercie pour cette terre qui nourrit enfin nos racines. Et je termine sur ce beau passage, car c'est vraiment très beau, et bien dit et bien écrit, Jean-Christophe Granger, « Je suis né du diable ». Albin Michel, un livre plein de révolte, peut-être, mais aussi d'espérance.